Je suis un peu propulsée ici pour cette conférence d'ouverture. Et je ne vous vois pas beaucoup, ça me perturbe pas mal. Mais du coup, je voulais vous souhaiter la bienvenue pour ce THSF numéro 9 que nous avons organisé avec une équipe assez mouvante et sympathique, notamment Frédéric et Pauline, que je remercie beaucoup. Et ainsi que la participation de beaucoup de membres du Theta Lab et de Mixart Meris. Donc c'est un truc assez collectif et funky. Vous avez pu voir qu'on est encore en montage, c'est la journée de lancement, tout est en work in progress. Mais ça ressemble pas mal à ce que peut être l'organisation d'un THSF. Et je sais pas ce qu'on est censé dire après, sûrement présenter l'événement et la prog.
On va pas rentrer trop dans le détail, c'était peut-être pour parler un petit peu de la thématique. Chaque année, on essaie tant bien que mal de proposer une thématique en invitant les intervenants à éventuellement intervenir en suivant ces thématiques, mais on essaie aussi de quand même de mettre en avant la culture hacker dans son ensemble. Donc la thématique n'est pas obligatoire. Certains y ont répondu cette année et on est parti un peu en se disant sur un peu comme une suite de la thématique de l'année dernière qui était plus orientée sur la méthodologie et un peu les quelques verbes qui permettent de décrire les pratiques dans le hackerspace. Partager, expérimenter, s'engager, militer également, apprendre. Donc cette année, en fait, on s'est dit, bon, peut-être faire un focus sur le langage qui, au final, est un peu le moyen de vraiment pouvoir effectuer réellement tous ces verbes-là. Il faut bien qu'on puisse communiquer l'information et qu'on puisse échanger des données et aussi pouvoir remettre en question les choses. Et ça passe par le langage et qui est à la fois un contenu et contenant qui peut être sur des formes. On peut faire de la poésie, on peut développer l'imagination, comme faire des choses plus abstraites ou comme les mathématiques ou les langages informatiques. Et dans tous les cas, les langages façonnent notre cerveau. Avec un certain nombre de mots, on ne peut que partager un certain nombre d'informations. Et ça, c'est simplement déjà dans un premier temps. Ensuite, vient la couche de l'expérience et de la prise de données toute notre vie qui est biaisée quelque part, et quand on s'exprime forcément on s'exprime à travers ces biais. Donc il est important de temps en temps redéfinir certains mots parce qu'on en arrive à des galvaudages ou des manipulations contre lesquelles on est un peu révolté, ou c'est le sujet qu'on aborde chaque année au THSF. Et voilà, en regardant la définition du mot hacker ou de tout un tas d'autres verbes ou mots qui permettent de définir ce qu'on fait. Et très souvent, c'est pas présenté, c'est présenté du moins avec un point de vue assez néfaste et pas du tout représentatif de ce qui se passe. Du coup, voilà, on a eu envie de faire de proposer cette thématique, et puisqu'elle permet aussi en même temps pas mal d'expressions artistiques, et c'est une composante du THSF à laquelle on tient beaucoup aussi. En fait, le THSF va se passer un peu comme d'habitude, avec des conférences toute la journée, des conférences éclairs aussi l'après-midi et parfois en soirée. Les programmes sont affichés sur la salle de conférences éclairs, et il y a des places disponibles encore, des créneaux, pour permettre à des gens pendant le festival de proposer, de s'exprimer sur un sujet. Et donc ensuite, des installations artistiques, des ateliers et des associations qui présentent leurs activités, des performances et des concerts le soir à partir de 20h30-21h jusqu'à un peu tard dans la nuit. Et deux points de résidence hacker. Donc on a rajouté une salle supplémentaire cette année. Donc on a la salle de l'année dernière, qui est une salle d'expérimentation générale. Ça va du textile intelligent jusqu'à le hacking de Minitel, de l'installation artistique. Et la deuxième salle de résidence est un petit peu plus loin, vers les salles de concert. Et là, c'est une salle qui est dédiée à de la recherche en musique, lutherie électronique, appareil MIDI, oscilloscope, musique et visuel avec des oscilloscopes. Et ça va être assez sympa. Voilà, plus ou moins les enduits des activités qui vont se dérouler pendant ces 4 jours. Merci à tous. d'être là. Peut-être juste rappeler que c'est vrai que le THSF, on le bricole à un petit nombre, comme disait Pauline, et qu'il peut se faire uniquement parce que les invités et les intervenants jouent aussi ce jeu de la bricole et nous aident un peu à bricoler tout ça ensemble. Et je pense, ouais, c'est dit maladroitement, mais en fait, le THSF est vraiment quelque chose qui est une construction collective localement, mais vraiment avec les participants aussi. Donc merci d'avoir été nombreux à proposer à la suite de l'appel à participation et à être là, à accepter des conditions d'accueil parfois funky, mais à les prendre avec sourire, avec le sourire et la bonne humeur. Merci à tous. Du coup, on va commencer les conférences avec un petit peu de retard. On va commencer par une présentation du collectif Petite Singularité, et Natacha Roussel et Lekin, et qui vont effectuer une enquête sur les interactions dans les collectifs. Là, du coup, plus précisément sur Mix Art Miris et le THSF, ils vont effectuer cette enquête au cours des 4 jours. Et ils feront donc une petite présentation maintenant. Et après, dimanche, ce sera la conférence, la dernière conférence, où ils nous présenteront une restitution de leur enquête. Voilà. Et Lekin, Natacha, c'est à vous.
Bonjour. Alors, tout d'abord, un vraiment grand merci de l'accueil du THSF pour d'avoir accepté la proposition de nous accueillir en tant qu'observateur et commentateur de l'événement. Alors, la raison pour laquelle on s'est intéressé à cette proposition, notre collectif, notre association s'appelle Petite Singularité, et on s'est concentré, à la suite de nombreuses expériences dans le milieu du jeu logiciel libre et des milieux associatifs, à envisager la question du logiciel libre et des pratiques collectives à l'heure qu'il est actuellement, et notamment la question des communs qui nous engage aussi. On a beaucoup de réflexions sur le langage. J'en ai une ici, hein, un t-shirt qui a été... Si vous le voyez, ça dit « Don't say bottom up, c'est topless ». Donc voilà, on s'amuse un petit peu avec les mots, pas mal. Un des outils qu'on propose est notre, si vous voulez suivre un petit peu ce qu'on fait, donc notre plateforme ps.zoethical.com, où vous trouverez un certain nombre de projets de coopération avec une multitude de projets, certains basés à Bruxelles, d'autres moins. Autour du THSF, donc, depuis qu'on a décidé de s'intégrer de cette manière-là, de s'émerveiller de cette manière-là, on a fait un petit peu le tour de ce qu'on a en ligne sur l'histoire du THSF. Alors, on a trouvé pas mal de choses qui est documentée sur le site de thsf.net. Et si on passe dans l'histoire, on a trouvé très très peu de choses sur les premiers événements. Cette vidéo qui parle déjà de la présence des sourds au Theta Lab et qui est étonnante, je vous inviterai à la regarder plus tard. On a trouvé, contrairement à ce que vous dites, beaucoup de travail sur les thèmes et qui sont toujours assez explicités et documentés. 2011, on a trouvé que celui-ci. 2012, In Porn We Trust, j'aurai quelques commentaires à faire sur ce sujet-là. Vous les trouverez sur cette page que vous pouvez regarder, à laquelle vous pouvez contribuer, donc THSF, ce qui s'est passé, sur notre plateforme Discourse. Vous trouverez dans Coopération la rubrique THSF. THSF 2013, donc on retrouve qu'on rejoint avec cette édition-ci qui s'appelle Régénération, qu'on a compris comme étant un préliminaire au 2013. À la 10e année du THSF. Le THSF 2005, qui était vraiment noir et blanc, a perdu ses éléments. Donc déjà, on trouve la notion de code inclus très rapidement partout. Donc le rapport formel est vraiment présent. On a archivé... c'est celui-ci, Less is More. Vous trouvez la première citation. Les archives ont été perdues, donc ce qui est en parfaite lien avec la thématique, n'est-ce pas? THSF 2016, qui s'inscrit dans la temporalité. Ça nous a paru un élément vraiment important lorsqu'on parle de pratique collective. Donc je ne peux pas m'empêcher de lire cette citation parce que je l'aime beaucoup. S'appuyer sur la notion de temporalité et de temps long, des idées pour penser l'action nous apparaît efficace quand notre volonté est que, au-delà des personnes, du groupe et de l'événement lui-même, ces idées continuent d'agir et de se perpétuer malgré les aléas du contexte. Donc quoi qu'il arrive, on est toujours là. En 2017, on revient sur le hacking. Donc 2016, il faut dire que c'est, si je ne me trompe pas, les premières résidences hacker. Donc c'est quelque chose qu'on a pu constater dans l'histoire du THSF. C'est une emphase qui a été mise de plus en plus sur la présence des différents groupes et des différents lieux de hacking en France en particulier, mais pas que. Et c'est un des seuls endroits où on trouve un tel regroupement ici. Donc c'est sur cet élément qu'on a voulu mettre l'emphase. Et bon, tous ces éléments, on les a trouvés, nous, sur le site actuel du THSF. Mais on n'a pas trouvé beaucoup de lieux de documentation. Donc ça fait partie des choses qu'on veut vous proposer, de prendre des notes de ce que vous faites, de prendre des notes de vos rencontres, de poursuivre les liens. Alors, on s'est posé la question des outils, de comment est-ce qu'on pourrait documenter. Donc, le THSF ENI de la rencontre avec Mixart Miris, c'est la rencontre entre un squat artistique venant d'artistes et un lieu des hackers, on va dire. Et vraiment, ce qui fait l'identité particulière de cet événement, et c'est probablement ça qui fait sa différence et sa force. Donc, Mixart Miris a une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas, et est en train de s'enraciner de façon solide dans ce lieu. Donc, on trouve déjà sur le site, dès 2012, les premières négociations sur l'idée de rester de façon plus pérenne et d'avoir du soutien. On trouve beaucoup de mentions dans les négociations avec la ville, et toujours dans cet esprit d'indépendance et d'autonomie qui caractérise le THSF, qui le caractérise aussi dans ses rapports aux subventions, et qui explique la nécessité d'une pratique collective. Donc voici le site du Theta Lab, où nous avons trouvé, vous voyez, il y a toutes les affiches, ça, celle de l'an dernier, celle d'avant. Donc c'est vraiment une source d'information. On propose donc la recherche d'outils. Vous avez vu Framasoft qui est présent dans un grand stand, donc je pense qu'on s'inscrit dans leur volonté la volonté de leur dernière campagne de Contributopia, et notamment avec les cafés. Je crois, alors je me souviens plus le terme qu'il a employé, mais il me parlait, je crois que c'était les contribuants cafés, où on envisage une rencontre entre personnes engagées dans le milieu associatif et les milieux technologiques. Donc c'est quelque chose qui va se matérialiser aussi. Donc les outils qu'on vous a proposés, on a cherché un petit peu s'il existait des instances Mastodon en lien avec le THSF. Celle-ci est celle de la quadrature du net qui est apparemment utilisée par le Theta Lab, mais on a aussi une autre qui est hébergée par Theta Neutral ici à Toulouse. On vous propose d'y contribuer dans le cadre de ce festival afin qu'on garde un petit peu trace de vous. Voici, donc la page a été reloadée, donc on ne la voit plus, mais aussi une autre option pour vos images. Là, c'est le PeerTube, celui-ci est spécifiquement de DataGull, mais qui me permet de faire le lien rapidement avec la présence de TV Bruit, qui fait une émission quotidienne et que vous pouvez retrouver sur une quantité incroyable de médiums, dont leur site web, où les choses seront streamées régulièrement. On proposera aussi un outil avec lequel on travaille, qui est une petite boîte qu'on installera dans la résidence à cœur, avec un certain nombre d'outils qui vous permettront d'archiver des contacts vidéo, des documents textes et différents éléments. On y affichera un questionnaire où vous pourrez présenter quel est votre hackerspace, mettre une personne contact, éventuellement un lien, de manière à ce que les contacts puissent perdurer si vous le souhaitez. Alors, Une autre possibilité et qu'on peut donner à titre de modèle qui fournit un chemin vers une collaboration entre Hackerspace et ce radar.squad.net. Je vais te laisser en parler.
Allô. Ouais. Je préfère ça. Radar. Donc le radar, c'est un projet qui a débuté il y a assez longtemps aux Pays-Bas. Qui a été recodé en Drupal il y a quelques années. Et maintenant, il y a une équipe qui est assez rodée là-dessus. C'est un outil très simple, c'est un calendrier qui répertorie tous les événements collectifs, autogérés, un peu partout dans le monde, surtout en Europe. On voit les pays ici. En France, il y en a pas mal. Et si tu fais Ctrl-Tab... Il y a une équipe qui prépare radar.hackerspaces.org pour faire la même chose, mais sur les événements spécifiquement consacrés aux hackers et à la résistance. Donc ça, c'est à surveiller. C'est l'un des sujets dont on a pu discuter, Ctrl-Tab, à Hackon l'année dernière. Il y a un nouveau Hackon. Donc Hackon, c'était un petit... festival de 80 personnes à ADM dans le squat d'Amsterdam. On n'a pas encore les dates, ça va être probablement à des dates similaires. Ça ne portera pas le même nom et ça sera probablement au même endroit. Ouais, alors en juillet aussi, première semaine de juillet, il y a évidemment les Remeleleux. Ça se passe à Strasbourg, l'équipe a l'air très sympa et assez dynamique. Donc on verra ce que ça donne. Résistance, ça c'est dans la région, c'est à Foix, festival de cinéma avec un programme plutôt intéressant qui fait bouger les lignes aussi au-delà du hack. Ici par exemple, paysannerie, champ de lutte, la victoire des nantis, Foix délié, les mécaniques sexistes, le tour d'Europe en 80 cours ou presque. Donc c'est un festival de court-métrage à Foix. Et puis. Ensuite, il y aura le Transac Meeting qui se passera à Tarnac du 9 au 12 août. Tarnac, ce n'est pas encore sûr, mais on va visiter ça le mois prochain. Donc, le Transac Meeting, c'est un événement qui a eu lieu deux fois il y a quelques années et qui fait en fait la liaison entre le Hack Meeting espagnol et le Hack Meeting italien. Donc là, ça ouvre encore plus. Cette année, ça se passera probablement en France. Avec la situation politique qu'on connaît, ça peut être intéressant. C'est à peu près tout ce qu'on a là. On est revenu. Okay. Pour la petite histoire, Natacha disait effectivement que c'est assez difficile de trouver de l'information sur les premiers THSF. Mais il y a plein de gens ici qui étaient au premier THSF et qui peuvent vous raconter des anecdotes assez salées. C'est très intéressant. Tonton, notamment, est plein de bons petits plans.
Donc, moi, pour revenir un petit peu en arrière par rapport à ce sur quoi on essaie de mettre l'emphase, donc au-delà des différents événements qu'on tenait à vous présenter parce qu'on pense qu'ils peuvent nous permettre de donner suite à ce qui va se passer ici, pour nous, il est vraiment important... De comprendre et de mettre l'emphase sur la particularité des personnes qui participent ici à l'événement ici, leur engagement dans le développement technologique et dans l'objet de leur développement technologique, dans l'idée de créer un réseau qui passe à travers les pratiques. Pour ça, on a développé un certain nombre de concepts qu'on aimerait vous présenter, des concepts qui s'inspirent de pratiques des communs, des concepts qui s'inspirent de la théorie des communs telle qu'elle a pu être présentée par Aliénor Ostrom, qu'on voulait aussi vous expliquer plus en avant. Et on voulait aussi mettre l'emphase, alors la manière dont le langage est présenté au THSF est inclusif, puisqu'elle parle du langage des signes au départ, dans l'affiche même. Elle doit être inclusive aussi en termes de personnes. On le sait qu'il y a une lacune évidente au cours des années dans nos environnements, et ce qui ne peut se combler que par l'ouverture à différentes pratiques, ce qui est vraiment palpable. Voilà, c'est palpable dans la volonté de s'intéresser au commun. Je te laisse. Et du coup, on aimerait vous proposer la lecture introductive d'un article qu'on a préparé récemment, qui envisage la possibilité d'un tiers techno-paysage, d'un paysage qui serait basé sur des pratiques alternatives des technologiques et qui reprendrait l'idée du tiers paysage tel qu'il a été défini par, en l'occurrence, Gilles Clément, qui en parle comme une suite naturelle sauvage dans les villes, une continuité d'espaces sauvages qui représenterait la quantité de la diversité et qui finalement serait plus importante et plus grande que les espaces domestiqués, contrairement aux apparences.
Donc parmi les activités qu'on a fait cette année, on a publié un article dans le Journal of Peer Production, peerproduction.net, y a toujours plein d'articles intéressants. Donc là, on l'a publié en anglais, mais j'ai traduit en français pour vous le lire ici. Ça va prendre 10 minutes à peu près, hein, donc si vous n'aimez pas la lecture. Alors, vous avez des textes ici pour ceux qui veulent suivre, notamment s'il y a des sourds, faites passer aux sourds, c'est plus pratique pour eux. Donc ça commence par une citation de Deleuze citant Foucault. La vie devient résistance au pouvoir quand le pouvoir prend la vie pour objet. L'activité productrice de vie manifeste un vaste spectre d'échelles et de diversité, générant des structures complexes, humaines et non humaines, qui défient la représentation. Dissipative, dispersive, reproductrice ou attentionnée, les structures soutenant la vie restent toujours en flux, toujours fragiles, toujours complexes, et échappant aux tentatives étroites de les saisir, de les limiter, les retracer ou les réduire à un modèle fixe. Malgré l'indéniable succès de la science pour prédire avec précision les phénomènes observables, elle n'a jamais atteint au point d'englober la vie. Mais en dehors du laboratoire, l'efficience de ces méthodes, dépourvue de la prudence de son cadre, conduisit des non-scientifiques à généraliser abusivement ces résultats à tout, imposant une vision dominante réductionniste de la complexité où toute réalité non couverte par la connaissance scientifique est simplement ignorée, menaçant la vie. L'uniformisation des moyens pour reproduire des stratégies gagnantes et la circonscription des réponses avant même qu'une question soit formalisée ne laisse aucune place à la différence, au changement d'échelle ou aux structures inscrites dans la diversité et la vie. Une telle primauté de la carte sur le territoire dans notre société extractiviste nous a poussé à explorer les conditions de pratiques alternatives situées. Un tiers techno-paysage. Il n'y a pas de tiers lieu. Éclairer signifie également porter des ombres. Alors que les pratiques technologiques citoyennes sont souvent associées à l'idée de tiers lieu, un espace social pour capturer les pratiques informelles et bénévoles, celles d'un hackerspace ou d'autres collectifs de terrain, vers des constructions dominantes, maison, lieu de travail et ce qui existe entre les deux. D'une société subjuguée par un marché extractiviste, nous mettons en question cette idée inscrite dans une pratique elle-même problématique de division binaire entre la maison et le travail. Parmi les ombres de l'hégémonie capitaliste et son idéologie, nous portons le tiers techno-paysage en réponse à l'idée capitaliste marchande, réductrice et erronée d'un tiers lieu entre le travail et la maison, où le capital social peut facilement être capturé et exécuté de sang-froid alors que la garde du travailleur est abaissée. Non seulement l'omniprésence des technologies rend les notions de maison et de lieu de travail poreuses au point de leur dissolution, mais les conditions d'existence des vivants se détériorant rapidement ne répondent souvent plus à ces critères. Le sans-logis rencontre le sans-travail dans la traîne ténébreuse de l'ombre prédatrice de la propagande de masse. Il y a un tiers techno-paysage. Au lieu de cela, nous affirmons que la formation de technologies singulières s'inscrit dans un tiers technopaysage, empruntant à Gilles Clément le concept de tiers paysage, un fragment indéterminé du jardin planétaire, qui réfère à la somme des espaces où l'humanité abandonne l'évolution du paysage à la seule nature. Nous proposons le concept de tiers technopaysage pour désigner ces lieux de production technologique abandonnés par l'industrie et ses institutions à la société civile. De tels espaces négligés par les dominants démontrent plus de ressources naturelles en termes de bio et néodiversité que ces espaces architecturés colonisés par la pensée préemptive, essentialiste et illémorphique. Les concepts de tiers technopaysage et de technologie singulière émergent d'un désir de caractériser la pratique quotidienne de groupes citoyens qui déploient avec succès leurs arrangements institutionnels et leurs potentialités sous le radar et hors de la compétence des institutions traditionnelles. Ces deux concepts n'essaient pas de définir aucune essence tangible, mais plutôt d'articuler des dynamiques sociales des groupes étudiés. Autant le concept de tiers technopaysage forme une réponse antagonique au concept idéologique de tiers-lieu, aujourd'hui populaire en sciences sociales, autant il procure un récit pour que la société se défende contre l'hégémonie de la récupération capitaliste. Le tiers technopaysage requiert une véritable activité humaine et requiert des liens sociaux insoumis à l'économie de marché. Dans le tiers technopaysage, la fracture sociale n'est pas à réduire, mais le résultat solidaire d'un coup de hache d'action directe porté à l'écran au coin carré de la propagande médiatique pour regarder et agir au-delà de son mur. Où le pouvoir nécessite de réduire la fracture et émousser les différences, le tiers technopaysage embrasse la divergence et l'unité dans la diversité. Comme en Aïkido, le tiers technopaysage demande un pas de côté pour laisser l'adversaire chuter de son propre poids. Cependant, qu'on peut s'émerveiller de beauté digne d'attention. Ce changement de perspective et de qualité du regard permet aux désintégrés de se déployer, de déployer leur solidarité créatrice. Jadis, la matière sombre de la société, le tiers technopaysage met en lumière aujourd'hui l'asymétrie artificielle des budgets publics qui le laisse en marge, alors même qu'il forme la majorité des initiatives de terrain dans une société en résistance à l'hégémonie capitaliste. Les institutions sauront-elles comprendre les prouesses des citoyens qui engagent des solutions pour et par eux-mêmes, là où le secteur privé est subventionné, ne cesse de promettre des merveilles sans autre effet que la production d'entraves au développement libre du tiers technopaysage. Comme nous embrassons et promouvons l'usage et la co-création de technologies singulières, nous émancipons nos pairs localement et en inspirons d'autres à partager l'amour et saisir l'importance de la production de technologies libres qui respectent et soutiennent la diversité. Autant le tiers paysage est un concept antagonique, en considérant les technologies singulières, nous nous plaçons dans une perspective fortement affirmative qui pose la différence comme existante et suffisante. Ceci est critique dans le mode opératoire de petite singularité et un pas nécessaire pour éviter de sombrer dans les apories cristallisées dans un ressentiment général qui, selon nous, paralyse les cercles activistes. Les discours normalisent la réalité et à se focaliser sur l'ennemi, on en oublie nos propres richesses. Au contraire, les technologies singulières répondent aux conditions locales et spécifiques, aux besoins ignorés par le marché. Non parce que le marché serait incapable d'y répondre, mais bien parce qu'y répondre irait contre sa logique de capture. Chaque activité singulière est située et fragile, parfois éphémère, engageant des activistes et des personnes dédiées qui œuvrent au développement de leurs esthétiques spécifiques. Aussi unique et fragile qu'il soit, chaque combat est important. Il crée de l'espace pour renouveler nos modes d'organisation et de production sociale. Depuis notre expérience du logiciel libre, nous travaillons à la formulation des technologies singulières, ou technologies favorisant la capacité humaine d'agir et la production critique et intentionnelle de technologies adaptées à l'usage local. Enraciner les technologies. En anglais, rooting technologies. Les technologies singulières sont conditionnées par la présence active et l'engagement de la communauté. Leur production engage de nombreux aspects différents qui les hybrident avec la vie pour leur assurer diversité et pérennité, découvrant des voies diverses pour la participation, l'engagement et la coopération entre nos réseaux de résistance.
Voilà, donc on voulait ouvrir à la salle plus tôt, puis on ne l'a pas fait, mais On est heureux d'entendre vos commentaires et on sera aussi heureux de les entendre sur les différents médiums qu'on vous a présentés. Parmi elles, donc, les instances Mastodon, la page dédiée au THSF sur le discours de petite singularité, donc ps.zoethical.com, vous trouverez le lien vers THSF.
Et pour les leftos, tous les jours à 11h dans la résidence Hacker.
Oui, on y tient vraiment organisé chaque jour un petit rendez-vous de petit déjeuner juste pour se présenter et faire un peu le point dans la résidence Hacker.
Bonjour, j'ai pas bien compris qui vous étiez et dans quel cadre vous veniez faire quelque chose. Enfin, je sais pas si c'est que j'ai raté un truc, mais je suis un peu perdu.
C'est une question difficile. Qui on est ? On est Petite Singularité, qui a pris la forme d'une association belge il y a un an. Et qui procède de la percussion de deux ovnis dans l'espace intersidéral du hack et des arts et de la résistance et de l'amour de la vie. Et ça fait très longtemps en fait qu'on se connaît sans se connaître, toi et moi, nous deux. C'était quelque chose de fulgurant, et c'est toujours quelque chose de fulgurant quand tu te rends compte que tu navigues dans les mêmes réseaux, mais finalement tu t'es jamais vu. Ça répond à ta question ?
Oui, oui, merci.
Je crois qu'on s'est, comme tous, on a vécu, on a grandi dans et avec les milieux alternatifs. On a vu des gens grandir, des gens tomber, des projets se construire, des projets se diffuser, d'autres non. On a vu des mots se faire reprendre, comme Fred le disait. On a vu des concepts se faire réutiliser. On a constaté que les résistances continuaient à résister et qu'on avait tous un point en commun. Et c'est là qu'on veut s'inscrire. On veut s'inscrire dans le lien entre ces résistances. Et on aimerait mettre l'emphase sur ce qui existe. Donc on essaye de trouver différents moyens, parmi eux de proposer certaines plateformes, parmi d'autres d'être à l'écoute. On va se promener avec une caméra vidéo, essayer de faire des interviews. On essaye de retracer ce qui se passe et d'essayer de fournir des outils qui permettent de relier les personnes et les idées.
Bonjour. Juste une question par rapport à la notion des tiers-lieux telle qu'elle était évoquée dans le texte que tu nous as mis en partage. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un glissement de vocabulaire justement ravalé et réinstitutionnalisé ou en tout cas recapitalisé par un ultralibéralisme très agissant ? Parce que j'avais le souvenir, mais peut-être que j'ai raté un épisode, que les notions de tiers-secteur, tiers-lieux, c'était justement la troisième voie peut-être possible, renvoyant justement à des aventures comme Mixar, comme le Theta Lab au sein de Mixar et ailleurs évidemment, et ce genre d'aventure. Mais j'ai peut-être raté un épisode, alors je me demandais si c'était un glissement sémantique de par la pratique, parce qu'effectivement il y a un avalement qui est très rodé et très opérant de toute forme que ce soit d'action et d'activité. Et donc je voulais être sûr de ça, si ça évoquait ce ravalement-là, ou si c'était fondamentalement pour toi la notion de tiers-lieu, pour vous et pour l'auteur du texte, la notion de tiers-lieu, renvoyé à quelque chose de toute manière pas né d'avance.
Je crois que c'est les deux. Le tiers-lieu a été effectivement récupéré par le milieu institutionnel, mais dès le départ, il est présenté en alternative aux deux premiers. Donc il est par nature une formalisation des deux premiers. Et un des exemples du tiers-lieu qui est donné dès les textes de Lefebvre, je pense que c'est lui qui en parle en premier, est le café. Comme lieu entre la maison et le travail. Mais pour que le café soit un lieu entre la maison et le travail, il faut qu'il y ait une maison et un travail.
Puisque ça avait commencé avec les histoires de langage, vous utilisez le mot singularité, vous utilisez les mots techno-paysage, vous n'avez pas peur de vous faire surprendre ou confondre avec les transhumanistes qui parlent de la singularité aussi. Et de l'autre côté, les techno-paysages, les lieux, on va dire, autres. Certains parlent de dark web ou autre, ce qui n'existe pas, d'après certains. Vous n'allez pas vous rapprocher d'avoir une vision des dystopies autour des problématiques de tout ce qui est science-fiction, cyberpunk ou autre.
La question était claire jusqu'à ce que tu mentionnes cyberpunk, parce que moi, c'est un peu comme ça que je suis rentré dans le milieu du logiciel libre et du hack, en lisant des romans, en lisant un neuromancien, par exemple. Mais je vois, j'entends très bien sur l'histoire du transhumanisme. Le fait est que on s'intéresse vraiment à nos forces et on annonce nos couleurs aussi. Je sais pas si tu as vu que le texte est honnêtement anticapitaliste. Je crois que c'est un peu comme ça qu'on peut faire la différence, en disant simplement, ben voilà, la frontière, elle est là. Et ça fait partie, tout à l'heure Natacha mentionnait Elinor Ostrom, ça fait partie des règles qu'elle a pu observer dans les collectifs qui gèrent les communs, les communaux, de manière efficace, pérenne. Donc, on forge des mots, on les prend aussi, on les reprend parfois, mais on essaye de ne pas parler de l'ennemi, on essaye de parler de nos forces, et je pense que si tu as un doute, tu regardes et puis tu te rends compte. Donc non, je n'ai pas vraiment peur de ça. Je pense qu'on est beaucoup plus fort en manipulation de mots que les transhumanistes. Et de concepts aussi, surtout.
Je ne parlais pas des transhumanistes, c'est les gens à l'extérieur qui regardent. Et ils voient ces mots et ils les rapprochent. C'est dans ce sens-là. Je pense que les transhumanistes,
je t'avoue que
bien de quoi ils parlent, et vous savez bien de quoi vous parlez.
Voilà.
Et là, vous avez votre définition, chacun a sa définition de singularité. Mais les gens à l'extérieur, ils ont ce mot singularité qui arrive là et...
Nous déjà, petite singularité, il y a petite devant et puis c'est au pluriel, c'est toujours au pluriel. Je suis bien conscient qu'on ne peut pas s'adresser à tout le monde. J'ai aussi conscience que il y a énormément de gens qui peuvent aussi faire la démarche d'interagir et de confronter leur perspective et peut-être de nous ouvrir les yeux sur certaines lacunes qu'on a certainement puisqu'on est des humains. C'est par nos différences qu'on peut se rencontrer plus que par nos ce qui est en commun. Ce qui est en commun, c'est un peu le fond. On a des corps, on a une vie. Et la vie n'est pas vraiment individuelle, il y a pas, elle se construit nécessairement dans la transindividualité, en ce qui concerne petite singularité, pour utiliser des mots qu'on aime bien. Là, on est en train de faire une conférence, alors qu'on devait faire mais il n'y a personne qui vient réclamer la scène, donc on va la garder encore. Allez, eh bien, on vous accueille. Et on va passer à la suite. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup.